Il est 14h sur France Culture et tout de suite c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho, une émission préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Ali Etovine et Elliot Baucher, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique Jordan Fuentes et aujourd'hui on descend dans la rue.
Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
L'écho déclare la grève sans préavis. À la veille de la grande mobilisation du 5 décembre, on vous emmène dans les mouvements de protestation et les usines à l'arrêt. La grève est-elle encore un mode d'action efficace? Demain, on observera le gréviste sous les traits d'un agent rationnel dans la théorie économique. Mercredi, le débrayage pèse-t-il sur la croissance? Enfin jeudi, on parlera des espoirs révolutionnaires de la grève générale. Mais d'abord, revenons aux origines même de la grève. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure révoltée d'Entendez-vous l'écho. Nous allons revenir sur la conquête du droit de grève en compagnie de l'historien Stéphane Sirot, professeur à l'université de Cergy-Pontoise en duplex de Lille, et de Nicole Magie-Germain, maîtresse de conférence en droit privé à l'université Paris 1. À 14h50, le journal de l'Écho vous sera présenté par Xavier Martinet. Stéphane Sirot et Nicole Magie-Germain, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et d'abord, on se plonge dans les mythologies de Roland Barthes.
Il y a encore des hommes pour qui la grève est un scandale. C'est-à-dire non pas seulement une erreur, un désordre ou un délit, mais un crime moral, une action intolérable qui trouble à leurs yeux la nature. Inadmissible, scandaleuse, révoltante, on dit d'une grève récente certains lecteurs du Figaro. La grève fonde le devenir et la vérité du tout. Elle signifie que l'homme est total, que toutes ses fonctions sont solidaires les unes des autres et que dans la société, tous sont concernés par tous. Opposer le gréviste à l'usager, c'est constituer le monde en théâtre, tirer de l'homme total un acteur particulier et confronter ces acteurs arbitraires dans le mensonge d'une symbolique qui feint de croire que la partie n'est qu'une réduction parfaite du tout. En protestant que cette grève la gêne, la bourgeoisie témoigne d'une cohésion des fonctions sociales qu'il est dans la fin même de la grève de manifester.
Stéphane Sirot, trois jours avant la grève du 5 décembre, il est utile selon vous de relire Roland Barthes?
Eh bien, son fameux texte qui s'intitule « L'usager de la grève » n'a rien perdu de son actualité. On vient de l'entendre et on peut penser qu'on retrouvera la rhétorique assez classique qui est régulièrement réactivée à chaque grand mouvement de grève, c'est-à-dire celle de la prise d'otage, celle aussi qui consiste, comme le dit Barthes, à découper la société en morceaux et à jouer au fond les grévistes contre les autres. Alors qu'en effet, comme le dit Barthes, on est face à un fait social total qui a cette particularité de mettre en mouvement au fond l'ensemble de la société et l'ensemble des acteurs sociaux. Donc, on va avoir en effet, je pense, le 5 décembre et les jours qui suivent, ce genre de réactivation de l'imaginaire, comme dit Barthes, bourgeois de la grève.
Cette rhétorique qui consiste à opposer le gréviste et l'usager, c'est une rhétorique qui traverse l'histoire de la grève?
Pas forcément. Elle la traverse particulièrement à partir du moment où se construisent les services publics. Il est évident qu'après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'État prend une place plus importante, lorsque se développe au travers notamment des nationalisations, les services rendus à la population par des salariés qui sont rémunérés soit directement par l'État, soit par des entreprises qui lui appartiennent, on voit se déployer très largement cette rhétorique-là. Qu'on voyait aussi parfois avant la Seconde Guerre mondiale dans des conflits qui mettaient en jeu, par exemple, la fourniture d'énergie. Les premiers conflits chez les électriciens, par exemple, qui utilisaient volontiers la coupure de courant à partir de la Belle Époque, du début du XXe siècle. On disait déjà dans la presse, effectivement, des propos de ce genre. C'est-à-dire qu'il était, au fond, pour certains, dans la grande presse, considéré comme intolérable que des grévistes puissent oser se servir de la fourniture d'un bien essentiel pour faire valoir leurs revendications. Donc c'est très ancien et évidemment ça s'est développé à mesure que les services publics se sont développés.
Alors avant de revenir sur l'histoire de cette conquête du droit de grève, un mot, Nicole Magie-Germain, sur ce texte de Roland Barthes et sur cette définition qu'il en propose, la solidarité, l'expression de la solidarité au sein d'une société. Est-ce que ça c'est une définition qui vous convient ou est-ce que vous auriez envie d'en proposer une autre ?
Dans le cadre de l'exercice du droit de grève, hein.
Oui.
Oui, comme c'est un droit collectif qui s'exerce individuellement, mais qui est un droit collectif, on ne peut pas dissocier en effet l'exercice du droit de grève de l'idée d'une solidarité, qu'il existe une solidarité entre des personnes, des travailleurs, qui à un moment donné décident de manière concertée de cesser de travailler pour porter des revendications professionnelles, puisque le but de la grève, c'est bien de porter non pas des revendications politiques, mais des revendications professionnelles.
Alors on va voir que l'histoire de la grève, c'est l'histoire de la légalisation d'un fait social et de son institutionnalisation. Mais ce qu'on peut dire, Stéphane Sirot, c'est que dès le Moyen-Âge et même dès l'Antiquité, on observe des pratiques d'interruption du travail en guise de protestation.
Oui, alors dans des ouvrages célèbres, certains font remonter les premières grèves à l'époque des pharaons, lorsque les esclaves s'arrêtent de pousser les pierres pour construire ces cimetières de souverains égyptiens. Mais pour ce qui me concerne, je fais quand même remonter la grève un peu moins loin, même si vous l'avez dit, au Moyen-Âge, on peut retrouver à l'époque moderne des arrêts de travail qui commencent à toucher le monde des ateliers. Cela étant, c'est quand même à partir du moment où le rapport salarial s'installe pleinement dans la société, où le salariat devient la condition sinon commune, tout du moins dominante, hein, c'est-à-dire en gros au moment de la première révolution industrielle. Bon voilà, là on peut considérer qu'on entre dans l'ère de la grève moderne.
Et c'est une grève qui à ce moment-là est illégale, notamment. C'est la loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 qui proscrit toute forme de cessation collective du travail et d'organisation corporative, Nicole Magie-Germain.
Oui, la grève est encore un délit. Alors c'est important puisque pour faire grève, il faut faire communauté, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une communauté de travail. Donc la grève ne peut pas se penser s'il n'y a pas de communauté de travail. Donc ce sont des formes d'organisation du travail qui vont faire naître cette communauté de travail, qui vont aussi donner naissance à la grève. Quand les travailleurs sont des travailleurs éclatés, que ce soit les travailleuses à domicile ou alors les ouvriers dans les champs ou les professions agricoles, le sentiment de la communauté n'existe pas suffisamment pour qu'on Elle n'existe même pas.
Et c'est pour ça qu'on parle de coalition, par exemple, au moment de la Révolution française.
Et puis
c'est comme ça qu'on les désigne.
Voilà, tout à fait. Ça renvoie à la Révolution française et puis surtout à l'impérieuse nécessité de se séparer de ces corps intermédiaires, finalement, entre l'État et le peuple, qui sont autant d'écrans qui peuvent mettre potentiellement en cause l'État lui-même.
Grève illégale et donc qui peut se révéler particulièrement dangereuse durant les premières décennies du 19e siècle, Stéphane Sirot.
Oui, alors d'ailleurs, pour revenir un instant sur la loi Le Chapelier, on n'emploie pas encore le mot grève. Hein. Effectivement, dans la loi Le Chapelier, on emploie le terme de coalition, qui désigne à la fois le fait de cesser le travail et le fait de s'organiser, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui les syndicats. Et la grève, le mot grève lui-même, il apparaît à l'époque napoléonienne, au début du 19e siècle, cette cessation du travail commence à devenir progressivement un fait social. Et comme il devient un fait social, eh bien on lui donne un mot qui vient de la place de grève à Paris, hein, puisque le terme lui-même, on le sait, vient des rapports de police qui tournent en place de grève, ces policiers, pour surveiller les ouvriers qui viennent se faire embaucher, hein, sur ce qui est la place du Châtelet aujourd'hui, et qui à un moment donné refusent de se faire embaucher parce qu'ils estiment que les salaires qu'on leur propose ne sont pas suffisants, et nous disent les rapports de police, les ouvriers qui se coalisent à ce moment-là disent qu'ils font grève, et donc le mot commence à être utilisé dans le sens d'une cessation du travail, alors qui est dangereuse parce qu'en effet, au moins jusqu'à la dépénalisation de ce droit de grève, de la grève, c'est-à-dire en 1864 sous le Second Empire, elle est donc interdite. Elle est interdite, ce qui veut dire qu'évidemment, elle peut se heurter à des formes soit de répression directe de la part des forces de l'ordre, soit à une répression judiciaire qui chaque année fait que, là, on le voit dans les archives de la justice, des grévistes, ceux qu'on appelait notamment les meneurs, hein, ceux qui organisaient plus précisément ces conflits, étaient condamnés à des peines d'amende, parfois jusqu'à des peines de prison. Et par ailleurs, dans la mesure où au XIXe siècle n'existe pas de force de maintien de l'ordre dédiée, qui envoie-t-on dans les grands mouvements sociaux, par exemple ceux des mineurs, hein, qui impressionne beaucoup, parce que cette foule qui est prête à en découdre fait peur aux autorités, on envoie l'armée.
C'est ce qui se passe au moment de la révolte des Canuts, par exemple, lyonnais, en 1830. 1931 et 1934.
Oui, au moment de la révolte des Canuts et même pratiquement jusqu'à la Première Guerre mondiale. Parce que c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale qu'au début des années 20 commencent à être créés des corps de gendarmerie mobile qui sont formés à maintenir l'ordre, y compris dans les grèves, sans forcément faire usage de leurs armes. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, lorsqu'on envoie la troupe, si vous voulez, la troupe, elle se défend en utilisant ses armes parce qu'elle ne sait pas en quelque sorte faire autrement, et à partir du moment où elle est confrontée à une foule de manifestants ou de grévistes qui lui paraît hostile, je dirais que son réflexe premier, c'est de faire usage de ses armes. Et donc, en effet, tout au long du 19e siècle, on a presque chaque année des blessés, voire des morts dans le cadre de conflits sociaux.
Dans le cadre de la révolte des Canuts, c'est carrément plusieurs centaines de morts et de blessés à l'issue de ces conflits.
Oui, ça peut effectivement tourner parfois au carnage, de la même manière que tourneront au carnage des tentatives révolutionnaires en 1830 ou en 1848. Donc on est à un moment où les rapports sociaux sont d'une radicalité extrême, et où l'usage de la violence, l'usage des armes, de l'armée, est considéré au fond comme tout à fait légitime face à une population ouvrière, puisque longtemps la grève est ouvrière, une population ouvrière qui elle-même est marginalisée, qui n'est pas pleinement intégrée à la société et donc vis-à-vis de laquelle, en quelque sorte, on s'autorise à faire usage de pratiques qui pourraient paraître illégitimes à partir du moment où on aurait affaire à des populations pleinement intégrées à la société, ce qui n'est donc pas du tout le cas des ouvriers du 19e siècle.
Et donc on peut dire que pendant cette première moitié du 19e siècle, Nicole Magie-Germain, ces manifestations, ces grèves se caractérisent non seulement par la violence de la répression dont elles font l'objet, mais aussi par l'échec des demandes, des revendications salariales qu'elles expriment.
C'est-à-dire qu'il faudra que ce qu'on appelle les professions à l'époque, qui deviendront les branches d'activité, s'organisent de manière à donner forme à des revendications, c'est-à-dire des demandes dont la forme d'expression pourrait être violente, mais qui ensuite seront canalisées par les organisations syndicales et qui deviendront des revendications. Donc il y a tout un processus qui passe d'abord par des mouvements violents pour ensuite être canalisé et s'inscrire dans une reconnaissance du fait syndical, mais également dans l'émergence d'un droit du travail. Donc toutes ces formes d'organisation ou le droit de grève, en tout cas l'émergence du droit de grève, la reconnaissance du droit de grève, interrogent plus largement sur l'institutionnalisation du fait syndical et la construction d'un droit du travail.
Mais une institutionnalisation qui va peut-être répondre à une situation de fait, parce que à partir de 1852, avec le Second Empire, ce que l'on observe, c'est que la grève s'installe et que la législation qui l'interdit est de moins en moins appliquée. Comment est-ce qu'on arrive à cette situation, Nicole Magie-Germain ?
Le droit ne fait jamais finalement que dresser un état des lieux et de reconnaître ce qui existe dans la pratique. Heureusement, le droit ne précède pas les pratiques. Mais en même temps, il faut donner un sens collectif à ces actions qui peuvent paraître comme des actions. Alors, mettant en cause l'État lui-même, c'est ce qu'il faut bien comprendre, jusqu'à la loi Valdez-Crousseau, donc qui reconnaîtra le statut de syndicat, la question qui se pose, c'est d'institutionnaliser l'État. Alors, dans sa forme républicaine un peu plus tard, mais c'est ce qui est mis en danger, c'est ce que l'on pense être mis en danger au travers de l'émergence de ces mouvements sociaux.
Il y a peut-être aussi des raisons politiques qui expliquent une moindre application de la législation contre la grève, Stéphane Sirot, durant le Second Empire.
Oui, parce que effectivement, dans les années 1860, et particulièrement dans la seconde moitié des années 1860, le Second Empire qui est déclinant se sent en quelque sorte obligé d'essayer de recevoir l'assentiment des classes populaires. Et par conséquent, il y a une bride qui se relâche sur le coup de la grève et sur celui des premières chambres syndicales. Les deux vont un petit peu ensemble. Et on observe donc en 1864 cette dépénalisation de la grève qu'apporte la loi Olivier. Et par ailleurs, à peu près dans le même temps, la tolérance des premières chambres syndicales ouvrières. Au fond, on considère dans ces années 1860, d'une part que, au fond, il vaut mieux avoir des protestations qui se fassent au grand jour plutôt que des formes d'organisation souterraines, sourdes, comme elles existaient jusque-là et qui au fond étaient mal identifiées, qui pouvaient être finalement plus menaçantes que d'avoir un adversaire qui agit dans la lumière et avec lequel on peut éventuellement engager ou former des compromis. Et puis d'autre part, l'espoir est formé dans ces années 1860 que les chambres syndicales ouvrières canaliseront les protestations et s'orienteront vers des formes de tempérance sociale qui seront profitables en quelque sorte à l'appareil d'État et lui permettront d'irriguer le corps social en évitant les conflits trop radicaux.
J'attends Maheu pour aller toucher la paye. On va bien voir.
Ça sent pas bon. On dirait qu'ils vont nous pousser à grève.
Ah, ça, c'est sûr. C'est facile à prévoir. Ils vont pousser à bout. La crise s'aggrave. Avec toutes ces usines qui ferment, on a de moins en moins besoin de charbon. La direction cherche à réduire les frais. Alors elle va rogner sur les salaires et ce sera aux ouvriers de se serrer la ceinture. Depuis 2 mois, là-haut, ils s'entassent sur le carreau des fosses. Une bonne grève les arrangerait plutôt. On épuise le stock. On met une partie des mineurs au chômage, et les autres, une fois domptés, on en profite pour moins les payer. Et puis ils sont au courant de la caisse de prévoyance. Ils ne disent rien, mais ça les dérange. Pendant la grève, elle se videra toute seule dans l'œuf avant qu'elle ne soit trop garnie.
Et si on nous force à la faire, cette grève?
Faites-la si ça vous amuse. Ça ruine les uns, ça tue les autres. C'est toujours autant de nettoyer. Mais à ce train-là, vous mettrez 1000 ans pour renouveler le monde.
Un extrait du film Germinal de Claude Berry. Les mineurs de la mine Le Voreux dans le nord de la France hésitent à faire la grève pour protester contre la baisse du prix de la berline, le wagonnet qui pouvait contenir environ 500 kilos de charbon. Alors le roman de Zola paraît en 1885. C'est un moment, Stéphane Sirot, où les grèves deviennent finalement le quotidien de l'univers de l'usine.
Si ce n'est le quotidien, en tout cas, elles sont en voie de banalisation. La dépénalisation, à partir de 1864, a donné un coup de fouet, en quelque sorte, aux revendications ouvrières qui s'expriment en se montrant moins sujettes à la répression, dans la mesure même où elles ne sont plus illégales comme elles l'étaient auparavant. Et de la fin du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale et même jusqu'aux années 1920, on voit une montée en puissance, avec bien sûr la parenthèse de la Première Guerre mondiale, mais une montée en puissance continue de la pratique gréviste. Donc qui commence à se banaliser dans l'univers de l'usine et qui commence au fond à devenir bon an mal an un régulateur social que, y compris certains patrons, commencent à accepter et à ne plus forcément considérer comme un acte de sédition tel qu'il pouvait être perçu auparavant.
Et entre temps, il y a eu en 1884 la loi Valdec-Rousseau et Nicole Magie-Germain du nom du ministre de l'Intérieur de l'époque, loi qui autorise les syndicats. Ça, c'est une étape absolument essentielle.
Oui, tout à fait, puisque l'État, faute de pouvoir empêcher, va essayer de canaliser et reconnaître un statut juridique donc aux syndicats, un statut propre leur permet d'exister, de développer une action, mais en même temps de contrôler. C'est toute l'ambiguïté du droit. En donnant un statut juridique, on encadre et forcément on limite aussi l'activité. Donc reconnaître les organisations syndicales, c'était aussi d'une certaine manière encadrer l'action, les formes d'action collective et notamment le droit de grève. Et
cette question de la limitation se poursuit jusqu'à aujourd'hui, limitation du droit de grève, on va y revenir, mais en tout cas c'est une période, toujours cette fin du 19e siècle, Stéphane Sirot, où on assiste à la disparition de l'ouvrier paysan et à la présence de plus en plus importante de l'usine, ce qui crée d'assez fortes tensions sociales. Il y a un besoin plus que jamais de rééquilibrer le rapport capital-travail.
Oui, alors c'est vrai que la grève va changer quelque peu de nature à partir du moment où l'industrialisation qui se développe fait progressivement disparaître cet ouvrier paysan qui d'ailleurs dans le cadre des grèves pouvait parfaitement mener des conflits très longs parce qu'il lui était possible de survivre en dehors de son salaire lui-même et donc de tenir parfois très longtemps. On a des grèves qui durent parfois des mois. Certains ouvriers d'ailleurs ne revenant jamais à l'usine. Il y a un turnover aussi aussi qui est extrêmement important et qui s'inscrit dans le rapport de force industriel. Et à partir du moment où, en effet, l'ouvrier paysan disparaît, le secours de grève devient devient absolument impératif parce que le seul moyen de vivre est devenu le salaire. Donc on a besoin d'organiser des formes de solidarité qui puissent en partie pallier l'absence de rémunération. Et puis la fin du 19e siècle, elle est aussi importante parce que du point de vue syndical, si en 1884 la loi autorise en effet légalise le fait syndical, il n'en reste pas moins qu'elle se trouve confrontée à un problème. Lorsque le législateur en 1884 légalise les syndicats, il les voit comme des objets possibles, des instruments possibles de tempérance sociale. Sauf que entre la fin des années 1880 et le début du XXe siècle, le syndicalisme français se construit et se pense comme un syndicalisme qui s'appelle et qui se qualifie lui-même d'action directe, c'est-à-dire un syndicalisme révolutionnaire qui considère que les seules modalités d'action valables dans le rapport salarial, c'est la grève et certainement pas la négociation. Et donc les syndicats sont légalisés à un moment où en fait le syndicalisme s'installe comme étant un syndicalisme de lutte de classe, un syndicalisme qui même envisage, et c'est une des particularités françaises, de faire la révolution, de supprimer le capitalisme, et qui considère que ça n'est pas par la négociation collective, mais au contraire par le rapport de force, que le monde du travail peut obtenir des concessions.
Ce ne sont pas les intermédiaires espérés par l'État, voire éventuellement voilà. Les auxiliaires.
Exactement.
Et alors, est-ce que les revendications tournent exclusivement autour de la question de la rémunération, Nicole Magie-Germain, avec cette idée que la rémunération devrait être élaborée désormais collectivement ?
Alors, ce qui est intéressant du point de vue de l'analyse juridique, c'est de noter que les syndicats vont devenir ce qu'on appellera plus tard des partenaires sociaux, au travers du droit de la négociation collective qui se forme en 1919, première loi qui reconnaît alors un statut juridique aux accords collectifs signés, mais un statut tout à fait limité. Il faudra attendre 1936 pour voir vraiment l'accord collectif devenir ce qu'on appelle la loi de la profession. Mais donc, on voit bien qu'on va orienter, les pouvoirs publics vont orienter progressivement l'action syndicale vers la négociation de ce qu'on appelait les tarifs, les salaires, mais avec cette idée également qu'il faut égaliser les conditions de la concurrence et que finalement on prend conscience à ce moment-là que plutôt que de laisser la concurrence s'installer et donc qu'on puisse par l'abaissement des coûts sociaux créer une concurrence déloyale entre les petites entreprises par exemple et les grandes, la négociation collective va permettre d'égaliser les conditions de la concurrence. Donc c'est à ce moment-là, puisque la loi sur les ententes de 1935 qui prévoyait que les conditions économiques de la concurrence seraient réglées n'aboutit pas, donc on va transférer dans le domaine social ce que l'on n'a pas pu faire, c'est-à-dire une organisation dirigiste de l'économie française par les accords collectifs signés entre les partenaires sociaux, on va transférer donc vers le social, c'est-à-dire que les conditions sociales vont devenir un élément de la concurrence et on va essayer d'aplanir les règles de la concurrence de manière à éviter ce qu'on appellerait aujourd'hui le dumping social, c'est-à-dire un abaissement des coûts sociaux.
Et cela alors même qu'il y a des différences entre les différents secteurs et entre les différents ouvriers, par exemple ce sont à cette époque, au début du XXe siècle, majoritairement les ouvriers peu qualifiés qui font la grève, Stéphane Sirot, et ce sont particulièrement les ouvriers du bâtiment qui lancent des initiatives de grève.
Oui, alors à chaque période, il y a des professions qui sont les fers de lance du conflit social. Effectivement, jusqu'en 1914, le modèle du militant ouvrier, le modèle du gréviste, c'est notamment dans les zones urbaines, c'est l'ouvrier du bâtiment. Hein, notamment, par exemple, en région parisienne, où j'ai pas mal travaillé sur ces ouvriers du bâtiment parisien, où entre la fin du 19e siècle et la veille de la Première Guerre mondiale, ces ouvriers du bâtiment font 700 grèves, dont l'une des dernières avant la guerre de 14, celle de 1913, qui est celle des terrassiers qui creusent pour le métro parisien, qui font des grèves tournantes pendant quasiment une année pour obtenir ce qui est l'autre grande revendication du monde ouvrier. On vient de parler des salaires, mais qui est souvent couplé à cette autre grande revendication qui est la revendication de la diminution du temps de travail. On a là les deux grands axes de la revendication ouvrière. Par la suite, il y aura d'autres professions, il y aura les métallos, il y aura les mineurs aussi, hein, qui seront les figures emblématiques, hein, de la classe ouvrière et celle aussi du syndicalisme et du Parti communiste qui, à partir des années 1920, s'insère au fond dans la pratique gréviste, puisque un lien se crée entre une partie du champ syndical et le champ politique qui conteste le système en place.
Et en 1936, c'est notamment l'industrie du textile qui se met en grève.
Après de longues heures de pourparlers souvent difficiles, nous venons enfin d'aboutir à un accord. Dans le plus bref délai seront évacuées les usines de Lille. Dans le plus bref délai sera repris le travail. Le gouvernement est heureux d'avoir déterminé cette solution d'un conflit qui autorisait de lourdes craintes. Il a pesé de toute son autorité pour déterminer cette solution heureuse. Il se doit, en toute équité, de rendre hommage au large esprit de conciliation dont ont su faire preuve les parties aux prises.
Voilà, une archive du 17 septembre 1936. C'est Roger Salengro, ministre de l'Intérieur à l'époque, que l'on entendait à propos du règlement et du conflit du textile. Nicole Magie-Germain, un mot sur cette déclaration officielle et sur cette année 1936, plus globalement, qui est essentielle, bien sûr, pour les droits des travailleurs.
Oui, du point de vue du droit du travail, puisque en 1936, on crée le mécanisme de l'extension des conventions et accords collectifs, c'est-à-dire que des représentants de salariés, donc des syndicats représentant des salariés et des organisations professionnelles employeurs, vont pouvoir signer des accords qui vont régler les conditions de travail d'un ensemble de secteurs d'activité, alors même que les employeurs ne font pas partie de l'organisation syndicale signataire. Donc c'est l'extension, par décision du ministre du Travail, qui permet donc de rendre applicable à un ensemble de travailleurs des conditions de travail semblables, en tout cas dans un secteur d'activité. Donc c'est un moment essentiel et il ne faut pas oublier aussi que le règlement des conflits collectifs de travail va faire partie à cette époque-là également, va être un centre d'intérêt pour l'État. Il va falloir essayer de canaliser ces formes d'action collective en utilisant la négociation collective et donc des formes tout à fait institutionnalisées de paix sociale pour aboutir à une paix sociale.
L'année 1936, Stéphane Sirot, à la fois une grande ébullition sociale et en même temps un certain nombre de conquêtes essentielles.
Oui, cette année 36, elle est extrêmement importante pour toute une série de raisons. Alors, l'une d'entre elles vient d'être évoquée, c'est-à-dire effectivement cette conversion du syndicalisme, notamment aux conventions collectives, hein, pour les raisons qui viennent d'être expliquées. La mise en place de ce qu'on appelle l'ordre public social, qui incite les syndicats à comprendre au fond que par cette forme de négociation on peut obtenir des droits nouveaux majeurs. C'est aussi important pour la pratique gréviste parce que 1936, on le sait, c'est, les images ont souvent été montrées, c'est aussi un grand mouvement d'occupation d'usines, d'occupation des lieux de travail. Donc on voit émerger des pratiques qui commençaient à exister les années précédentes mais qui deviennent un fait social au moment de ce mouvement de 1936. Et puis on a au fond le premier sommet social, hein, parce que 1936, les grèves commencent à s'apaiser à partir du moment où Léon Blum, qui est président du Conseil, organise une grande réunion, un premier grand sommet social dans lequel viennent les représentants du patronat et les organisations syndicales, à commencer bien sûr par celle qui est dominante à l'époque, à savoir la CGT. Ce qui est aussi une forme de reconnaissance pour elle, parce qu'il faut quand même rappeler que, et c'est aussi un élément qui rend compliqué en France plus qu'ailleurs, la construction de compromis en dehors de la formation préalable d'un rapport de force, c'est le fait que les organisations syndicales ne sont pas légalisées, ne sont pas autorisées sur le lieu de travail jusqu'à la loi de décembre 1968. Il va falloir attendre le grand mouvement historique de mai-juin 68 pour que par la loi les activités syndicales soient enfin autorisées, légalisées dans l'entreprise. Ce qui permettra bien sûr d'avoir désormais un acteur reconnu pour pouvoir signer des accords à l'intérieur des entreprises, ce qui n'était pas possible auparavant. Donc de ce point de vue-là, la France a un retard absolument important par rapport aux autres pays d'Europe occidentale.
Et c'est effectivement un point essentiel à souligner. Nicole Magie-Germain, vous voulez réagir ?
Oui, Stéphane Sirot mettait l'accent sur un point important. En 1936 naît ce qu'on appelle l'ordre public social, c'est-à-dire que dès lors qu'on autorise les organismes syndicaux, les organisations professionnelles d'employeurs à conclure des conventions et accords collectifs dans un secteur d'activité, dans une branche, il va falloir penser l'articulation avec la loi. Et la solution qui sera trouvée, qui jusqu'à il y a assez peu de temps fonctionnait toujours, cette articulation, c'était une articulation qui obéissait au principe de faveur. On ne peut la convention ou l'accord signé au niveau de la branche ne peut qu'être plus favorable que la loi. Donc on avait l'idée que le droit social se construisait dans le progrès par rapport à la loi. Et on, enfin, vous le verrez peut-être dans les jours qui viennent, mais les lois, les réformes successives n'ont cessé de déconstruire cet ordre public social en finalement en étant dans une logique de moins-disant plutôt que d'ordre public social.
Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, la colère. Quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines. Ce n'est qu'un début. Mobilise, on parle de crise, ce n'est qu'un début. On marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère, la queue ses poings nus. La révolution, le mot est lâché. Plein mois de mai, la révolution. Entre les pavés, des fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution. La révolution. Quand elle unit des camarades, la colère, la colère. Quand elle unit des camarades, la colère monte en barricade. La Sorbonne libre, sans ciel, l'Odéon. Partout l'amitié, la Sorbonne libre. Ils nous ont chassés à coups de matraque, ils nous ont volé la Sorbonne libre, la Sorbonne libre. Quand on bâillonne la colère, la colère, la colère. Quand on bâillonne la colère, elle fait le tour de la terre.
Grève illimitée, chantait Dominique Grange en 1968. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? La juriste Nicole Magie-Germain et l'historien Stéphane Sirot sont toujours avec nous pour parler de la conquête du droit de grève. Alors on arrive à l'après-Seconde Guerre mondiale, Nicole Magie-Germain, et là il y a une étape importante, c'est que le droit de grève devient garanti par la Constitution.
Oui, tout à fait. Donc le texte le plus élevé dans l'ordonnancement juridique, la Constitution française, reconnaît le droit des travailleurs à faire grève et donc à s'organiser pour cesser de travailler. C'est important puisque le contrat de travail sera suspendu et non plus rompu, c'est-à-dire qu'on autorise, on accepte que des travailleurs puissent, des salariés, ne pas remplir leurs obligations, celles qui sont issues du contrat de travail, mais c'est le fait de ne pas remplir ses obligations n'entraînera pas la rupture du contrat de travail, mais sa suspension. Évidemment, c'est un droit essentiel qui va être reconnu pour que ensuite la grève, le droit à la grève, puisse s'exercer dans les conditions normales.
Et parallèlement, les textes qui accompagnent la construction européenne reconnaissent également le droit de grève, ce qui n'empêche pas l'État d'avoir recours à la réquisition, comme en 1963 face à la grève des mineurs dans le Nord-Pas-de-Calais.
La réquisition, contrairement à ce qu'on a dit, n'était nullement une façon de nier le droit de grève. Le droit de grève est d'ailleurs dans la loi, et le gouvernement le reconnaît. Mais nous nous trouvions dans des circonstances exceptionnelles, au lendemain d'un hiver particulièrement long et rigoureux, avec 2 mois de gel ininterrompu, des stocks de charbon inexistants, la grève illimitée. Cela voulait dire, et cela veut dire, un arrêt progressif de l'activité économique du pays. Le gouvernement ne pouvait pas assumer cette responsabilité morale. Et je crois qu'il est de l'intérêt des mineurs de ne pas endosser, eux non plus, cette responsabilité.
Le Premier ministre Georges Pompidou, le 8 mars 1963. Stéphane Sirot, que nous raconte cet épisode important de l'histoire de la grève en France et que vous inspirent ces propos de Georges Pompidou ?
Alors, il m'inspire d'abord que le fait que Georges Pompidou a eu bien tort de tenir ce discours et de lancer cet ordre de réquisition pour deux raisons. La première est que le résultat a été en réalité de renforcer la détermination des grévistes. Plus une mine ne fonctionnait. Et par ailleurs, ça ne lui a pas permis de se mettre de son côté l'opinion publique qui s'est au contraire massivement rangée du côté des grévistes.
Et la grève s'est étendue même à d'autres secteurs.
Cette grève de 1963, c'est la grève qui a finalement bénéficié de la plus formidable solidarité de la part des Français. On n'a jamais vu dans l'histoire des grèves en France, quelle que soit la période que l'on prenne, des secours de grève affluer à ce point. On a même eu à peu près 25 000 enfants de mineurs qui ont été accueillis dans des familles pour éviter aux grévistes d'avoir à subvenir à leurs besoins à un moment où il était compliqué pour eux, bien sûr, de les nourrir au quotidien.
Et ça, comment est-ce que vous l'expliquez, Stéphane Sirot ?
Parce que cette profession des mineurs, elle a en 1963, elle bénéficie d'une aura formidable, parce qu'il ne faut pas oublier que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s'est déroulé ce fameux épisode qu'on appelle la bataille de la production pour redresser la France, pour faire redémarrer l'économie, au cours duquel, pendant 2 ou 3 ans, il a été demandé aux mineurs des efforts absolument substantiels. On leur a demandé de ne pas revendiquer, on leur a demandé de travailler davantage avec des salaires qui n'augmentaient pas, de se sacrifier au fond pour le bien du pays, pour l'intérêt général, ce qu'ils ont fait volontiers, d'autant plus que Maurice Thorez à l'époque, qui était le leader du Parti communiste, était vice-président du Conseil. Donc ils ont fait cela et pendant très longtemps, les mineurs vont garder de cet épisode de la bataille de la production une popularité absolument formidable au sein de la société française. Et par ailleurs, 1963, on arrive aussi à l'orée d'un moment où le pouvoir gaulliste est jugé par beaucoup trop autoritaire, commence à être usé. Et donc ce mélange de circonstances fait que ces mineurs reçoivent l'assentiment de la grande majorité de la population et que le gaullisme entame son déclin.
Alors il y a la mobilisation des ouvriers, mais à partir de quel moment est-ce que les employés, eux aussi, se mettent-ils à recourir à ce type de mobilisation avant d'en venir aux fonctionnaires, Stéphane Sirot ?
Alors c'est principalement pendant la Première Guerre mondiale qu'on voit émerger des grèves d'employés, par exemple dans les banques. Et puis dans l'entre-deux-guerres, ça commence aussi à se diffuser, même si la grève reste majoritairement ouvrière. C'est surtout après la Seconde Guerre mondiale, en suivant le mouvement de tertiarisation de l'économie, qu'on voit la pratique gréviste se diffuser de plus en plus à l'ensemble des catégories, y compris même d'ailleurs au cadre dont on commence à relever certains mouvements de contestation, même s'ils restent marginaux, ils commencent à exister. Et après la Seconde Guerre mondiale, on est vraiment au cours des Trente Glorieuses, à un moment où la pratique gréviste est quelque chose dont s'empare l'ensemble du salariat.
Et alors qu'en est-il des fonctionnaires, Nicole Magie-Germain ? C'est une question que vous connaissez particulièrement bien. Les fonctionnaires, eux, n'ont pas le droit de faire la grève si l'on s'en tient à l'arrêt Winkle de 1909.
Oui, tout à fait. Alors la question qui va se poser, alors c'est complexe puisque il faut repenser la question du droit de grève dans la fonction publique au regard d'un État interventionniste, un État jusqu'à De Gaulle qui va être un État qui va intervenir à la fois dans la société, dans les affaires courantes, mais dans le secteur industriel et commercial.
C'est ce qu'on appelle l'économie mixte.
Voilà. Et durant l'entre-deux-guerres, l'échec de création d'un statut uniforme qui s'appliquera à l'ensemble des fonctionnaires va reposer sur cette idée d'interdiction du droit de grève. On a d'un côté l'État, au travers de différents projets, qui veut interdire le droit de grève pour tous les fonctionnaires, et de l'autre, les organisations syndicales de fonctionnaires et les fonctionnaires, qui refusent, dans le cadre d'un droit du travail naissant dans le secteur privé qui offre de larges possibilités. N'oublions pas que les fonctionnaires ne négocient pas les conditions de travail, ils ne peuvent pas signer d'accords qui ont une force contraignante. Donc, Dans l'entre-deux-guerres, les fonctionnaires se voient retirer un certain nombre de droits, dont celui de faire grève. Donc, les projets de statut uniforme échoueront. Le premier, bon, ce sera 1941, mais c'est la période de Vichy, une petite parenthèse, et l'autre sera voté en 1946. Et la question du droit de grève ne sera jamais traitée en tant que telle, puisqu'on n'arrive pas à sortir de cette aporie, de cette impasse dans laquelle on se trouve, qui fait que, au nom de la continuité du service public, on doit assurer un service minimum, mais en même temps, le droit de grève étant lui-même un droit constitutionnel, comment concilier deux droits constitutionnels, la continuité du service public avec le droit de grève dans les services publics?
Alors, on va voir, c'est une question qui se pose encore aujourd'hui, mais d'abord, Stéphane Siro, sur cette mobilisation de la fonction publique qui, depuis le milieu des années 90, représente même la majorité des grèves, donc on est passé d'une mobilisation presque nulle à une mobilisation absolument déterminante.
Oui, alors d'ailleurs dans les statistiques, on voit que les fonctionnaires prennent le relais du secteur privé où la pratique gréviste traditionnelle, c'est-à-dire la grève continue de plusieurs jours, tend à diminuer considérablement au profit des débrayages de quelques minutes ou quelques heures, hein, qui sont moins coûteux. Mais ce qui explique, à mon sens, la multiplication des conflits sociaux dans la fonction publique, et particulièrement la fonction publique de l'État, c'est le fait que dans ces années 90, on est de plein pied dans le libéralisme économique, qui fait que l'État tend à rechercher la réduction de son propre périmètre et à développer des politiques publiques qui sont jugées par un certain nombre de fonctionnaires comme des politiques publiques restrictives qui atteignent à la fois l'emploi, qui peuvent éventuellement atteindre les salaires et qui sont jugées insupportables. Donc il est bien évident que ce qu'on pourrait appeler les injonctions libérales qu'on voit aujourd'hui encore à l'œuvre, si ce n'est davantage qu'auparavant, ces injonctions libérales vont susciter elles-mêmes de la protestation et du conflit dans la fonction publique.
Et parallèlement, il y a un effondrement de pans entiers de l'industrie à la faveur de la crise qui intervient au tournant des années 70 et 80.
Oui, c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, dans les statistiques, le secteur privé tend à s'affaisser, parce que la grève jusqu'aux années 70, elle était encore massivement une pratique ouvrière, même si elle s'était, on l'a dit tout à l'heure, largement diversifiée, si tout le monde s'en est emparé, il n'en reste pas moins que c'était les grandes grèves de mineurs, de métallos, de sidérurgistes, les grandes grèves de l'automobile, enfin bref, des grèves essentiellement dans les statistiques et majoritairement des grèves ouvrières. Donc à partir du moment où ferment les puits de mine, où la métallurgie, la sidérurgie disparaissent, où le périmètre de l'industrie automobile tend à se réduire, eh bien on a mécaniquement en quelque sorte une réduction de la part représentée par cette frange du salariat dans la pratique gréviste.
Donc après 45, on a une extension à plus de secteurs, donc le privé, la fonction publique, on va les employer, la fonction publique, et en même temps des grèves de plus courte durée, d'ampleur plus limitée. Ça, c'est lié, Nicole Magie-Germain, aussi au fait que on assiste à une judiciarisation des conflits, on recourt moins à la grève.
C'est difficile d'avoir une vision aussi large. Globalement, le droit du travail, avec la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, par exemple, mécaniquement, on a transféré vers le juge des conflits qui normalement trouvaient d'autres issues. Donc c'est aussi la façon dont le droit du travail se transforme qui fait que l'on transfère sur le juge, y compris le contrôle de l'exécution de la relation de travail. C'est-à-dire qu'on va devant le juge, pas simplement pour contester la rupture du contrat de travail, mais pour contester la façon dont on travaille, la façon dont s'exécute le contrat de travail. Mais cette remarque vaut globalement pour le droit du travail, pas simplement pour la grève. Mais ce qui est vrai, c'est que le néolibéralisme qui se met en place à la fin des années 90 va se traduire par l'ouverture des monopoles de services publics comme EDF, GDF, SNCF, RATP à la concurrence, dont les derniers stigmates, si on peut en parler ainsi, sont en train de voir le jour. La RATP va être ouverte à la concurrence. Enfin, l'activité, en tout cas, de desserte dans la région parisienne va être ouverte à la concurrence. Donc, le néolibéralisme aussi déconstruit un certain nombre, une forme d'organisation économique de l'activité et opère des transformations qui génèrent des désaccords, des conflits et des grèves.
Alors, on commence peut-être déjà à se demander si la grève est une mobilisation qui est en train de devenir obsolète. Et pourtant, en 1995, il y a un vaste mouvement de grève contre la réforme des retraites qui fait reculer le gouvernement. Et cela malgré une ultime tentative d'Alain Juppé de mettre fin à la mobilisation.
Je sais que la vie quotidienne de beaucoup d'entre vous est difficile, mais que depuis quelque temps, elle est plus difficile encore. Je pense à ceux d'entre vous qui veulent travailler, et qui doivent parfois se lever à 3 ou 4 heures du matin pour rejoindre leur bureau ou leur atelier. Dans les grandes villes, vous devez parfois faire des heures de marche, et avec le froid qui revient, c'est de plus en plus dur. Puis je pense aussi aux grévistes. Je sais que ça n'est pas une décision facile que de décider la grève. Et pour les plus modestes, cela implique des sacrifices. Alors il n'est plus possible de continuer comme cela. Nous sommes dans une situation de blocage et d'affrontement dont chacune et chacun va finir par pâtir. Il faut en sortir, il faut en sortir d'urgence.
Le Premier ministre Alain Juppé au JT de 20h le 5 décembre 1995. Une semaine plus tard, ce sont 2 millions de personnes qui descendent dans la rue. Stéphane Siro, quelles leçons ont été tirées de ce mouvement de grève historique ?
Je ne sais pas si des leçons en ont été tirées, parce que on a vu se rééditer à un rythme accéléré les grands mouvements sociaux d'ampleur nationale, un rythme qu'on n'a jamais connu. Si on prend les 15 ou 20 dernières années, donc après le mouvement de 95, on a eu 2003, 2009, 2006, 2016, 2017, enfin bref, une accumulation de mouvements d'ampleur nationale qui, à mon avis, sont aussi une démonstration du fait que les gouvernements qui se sont succédés, quelles que soient d'ailleurs les majorités politiques, se sont très largement axés sur des politiques libérales, on l'a dit, mais se sont par ailleurs refusés à entrer dans des processus de recherche de compromis. Et donc à partir de ce moment-là, ce refus de rechercher la construction de compromis engendre ensuite des formes de conflictualité qui deviennent inévitables et qui deviennent parfois plus radicales, dans la mesure même où il n'y a pas de la part des pouvoirs publics une recherche de l'apaisement et une recherche de la sortie de crise. Or la grève a pour fonction justement historiquement d'être une alerte qui est lancée auprès du patronat, auprès de l'appareil d'État, pour l'inciter en quelque sorte à discuter sur des réformes, sur des revendications qui sont émises par les mouvements sociaux. Et on voit bien aujourd'hui que de plus en plus souvent les pouvoirs politiques font la sourde oreille.
Des conflictualités effectivement que le pouvoir cherche à éviter. On se souvient de Nicolas Sarkozy qui cherchait à assurer un service minimum dans la fonction public et qui se prononçait sur ce sujet en août 2008.
La France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
Voilà la blague, avec des guillemets, de Nicolas Sarkozy lors d'un conseil national de l'UMP le 6 juillet 2008. Nicole Magie-Germain, est-ce que le droit de grève a été limité sous sa présidence par la loi sur le service minimum ?
Mais, enfin, concernant les services publics,
est-ce que ça a été respecté?
La question, moi je suis tout à fait d'accord avec Stéphane Siro, qui se pose au travers de cette incapacité des gouvernements successifs à entendre, il ne s'agit pas de répondre à la demande sociale, il ne s'agit pas que la politique soit le reflet de la demande sociale, mais en s'asseyant complètement, en écartant complètement les revendications, on décrédibilise, on délégitime les corps intermédiaires, les organisations syndicales et leur capacité à porter une voix. La grève est un fait normal, un fait qui doit être banalisé. C'est un droit des travailleurs, mais c'est surtout le signe d'une société qui est capable de s'engager suffisamment personnellement, de gens qui sont capables de s'engager pour une cause. Et c'est un corps vivant. Une société dans laquelle les personnes sont capables de s'engager dans des mouvements qui leur coûtent de l'argent, qui leur coûtent de l'énergie, qui leur coûtent du temps, c'est une société vivante.
Mais justement, est-ce que ce droit de la grève a été fragilisé hier par Nicolas Sarkozy ou aujourd'hui par exemple la volonté de quelqu'un comme Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains, de garantir toujours ce service minimum dans les transports publics? Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une nouvelle menace pour le droit de grève?
Si je devais avoir une analyse juridique, non, il n'y a pas de menace du droit de grève. le service public implique une continuité de l'activité. C'est l'essence même du service public. Donc, encadrer, du point de vue de l'analyse juridique, encadrer le droit de grève dans le service public est une chose qui est tout à fait normale, cohérente. Après, on peut s'interroger sur la façon dont les droits de grève, est-ce qu'on peut parler d'un service public dans le cadre de la SNCF? La SNCF assure-t-elle toujours un service public? Donc, le service public ne s'est-il pas non plus transformé au point que on puisse poser la question, est-il toujours légitime dans certains secteurs d'activité de vouloir encadrer l'exercice d'un droit alors que le service public a été vidé de sa substance?
Parce qu'évidemment, c'est très clair pour, par exemple, les CRS et les policiers. Alors, après, on peut en discuter aussi, mais qui n'ont pas le droit de grève, ça l'est moins pour d'autres secteurs publics, Stéphane Sirot.
Oui, alors le droit de grève n'a jamais été un droit absolu, hein, d'ailleurs. Il faut quand même le rappeler, même s'il est constitutionnel, il y a toujours eu des professions les gardiens de prison, les magistrats, enfin bref, l'armée, qui ne dispose pas de ce droit. Donc ça n'a jamais été de toute façon un droit absolu. Ce qui me semble problématique dans la société d'aujourd'hui et au point où on en est, c'est la chose suivante. Toute société, en tout cas démocratique, a besoin de régulation sociale. La grève a joué ce rôle de régulation sociale. Les corps intermédiaires ont participé à cette régulation sociale. À partir du moment où on nie le fait que la grève et les organisations syndicales puissent jouer ce rôle de régulateur au sein des rapports sociaux, ça nous mène à un panorama qui ne me paraît pas souhaitable, c'est-à-dire une polarisation du champ politique entre l'extrême libéralisme et l'extrême droite, avec entre les deux comme seul régulateur des mouvements de gilets jaunes à répétition.
Mais ça pose aussi la question de la responsabilité des syndicats dans cette perte de vitesse. Et aujourd'hui, ce qu'on a observé avec le mouvement des gilets jaunes, par exemple, c'est que les baisses d'impôts qui ont été obtenues, les avancées obtenues, elles l'ont été sans interruption du travail, comme si la grève était devenue obsolète, Stéphane Sirot.
Oui, c'est un précédent de ce point de vue-là. Alors précisément, les organisations syndicales sont mises au défi face au 5 décembre qui s'annonce de faire la démonstration qu'elles sont en mesure, en capacité de revenir au centre du jeu social et de faire usage de cette pratique de la grève de manière efficiente. Donc ça, c'est effectivement leur tâche immédiate.
Il y a un défi là qui se pose plus que jamais la veille du 5 décembre pour les organisations syndicales, Nicole Magie-Germain.
Il faudrait déjà qu'on arrête de les délégitimer et qu'on reconnaisse que ce sont des corps intermédiaires qui permettent de canaliser des demandes collectives.
On va reparler en tout cas de ces questions toute cette semaine et en particulier jeudi, jour de mobilisation générale. Un grand merci à tous les deux. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet pour le journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Semaine de mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Donc, malgré les appels à la grève jeudi, le gouvernement maintient son projet. Une chose est sûre, les régimes spéciaux seront au cœur des discussions.
Et oui, s'il y en a des discussions, puisque la réunion du gouvernement hier n'a pas fait apparaître de nouvelles annonces, et le projet de régime unique reste majoritairement inconnu, sinon ce choix d'une retraite par points est un principe. Un euro cotisé ouvrira les mêmes droits pour tous, sans plus de précision en tout cas. La CFDT accuse le gouvernement de perdre tout le monde. Les régimes spéciaux seront bien, c'est vrai, les premiers à se faire entendre. RATP, SNCF comme noyau. La police fera des actions en commissariat. Les CRS, certains en tout cas, ont déjà déposé symboliquement armes et casques aujourd'hui. À l'approche du 5, le gouvernement, lui, n'hésite plus à cibler ces régimes spéciaux. Ils sont une vingtaine sur les 42 et selon Gérald Darmanin, ils coûteraient 8 milliards d'euros à l'État chaque année et, selon lui toujours, ne se justifient plus. Alors pour autant, une réforme par points serait-elle forcément plus juste? Élément de réponse avec l'économiste à l'FCE, Vincent Touzé.
Pour les salariés du secteur privé, on est déjà sur des régimes qui fonctionnent déjà comme des régimes par points, il y a une certaine proximité. Pour les régimes spéciaux, c'est plus compliqué, puisqu'on est sur des régimes qui sont très loin des régimes par points. Et donc, si dans un futur à déterminer, tous les régimes existants basculer dans un système universel en points, se pose la question, c'est toute la transition entre des travailleurs à qui on a déjà accordé des droits, et ces travailleurs ils peuvent être assez proches de leur date de retraite. Après, le projet de la retraite par points universelle, c'est le projet qui est porté par le gouvernement, exprimé actuellement par le commissaire. Après, il peut exister d'autres alternatives à la réforme. Une voie qui peut exister, c'est rester dans les régimes actuels et continuer à faire ce qu'on appelait la convergence des régimes, notamment avec un certain alignement sur les durées de cotisation, sur les âges de départ à la retraite. Donc, forcément, adopter un régime universel. Après, sur les âges de départ à la retraite, certes, il peut y avoir un certain idéalisme à dire que on pourrait peut-être tous partir à 60 ans. Après, il y a la réalité démographique. Mais cette réalité démographique, elle résulte aussi d'une bonne nouvelle. C'est que, aujourd'hui, les gens vivent plus longtemps et en bonne santé. Donc, je dirais le fait qu'ils restent employables et puis puisse contribuer à une certaine productivité dans l'entreprise, ça peut faciliter un certain maintien dans l'emploi.
Le ministre Bruno Le Maire laissait cependant entendre ce matin sur France Inter que des aménagements seraient possibles, notamment pour les enseignants.
Oui, les enseignants qui perdraient entre 300 et 900 euros pour les professeurs des écoles de retraite par rapport au système actuel. Le ministre a donc laissé entrevoir une revalorisation des salaires pour qu'ils ne soient pas lésés. Donc en fait, un maintien du financement de l'État, on n'en sort pas. Il faudrait aller vite en tout cas. Jean-Paul Delevoye s'exprimera le 9 et 10 décembre, puis le Premier ministre avant le passage du projet au Parlement d'ici début 2020.
On passe au bref. Le gouvernement peut mieux faire, cette fois en matière de fraude fiscale, et c'est la Cour des comptes qui l'affirme.
Oui, le constat de ce rapport est plutôt sombre. Je cite, tendance à la baisse des résultats, baisse notamment des recouvrements concernant la fraude aux prélèvements obligatoires. Le chiffrage même est difficile. On parle de 80 millions d'euros. C'est un chiffre syndical et le diagnostic est sévère. Outre la complexité propre au phénomène désormais numérisé, la Cour des comptes pointe aussi la baisse des effectifs du ministère des Finances ou des faiblesses de gouvernance. Si malgré les annonces de Gérald Darmanin d'une hausse des recouvrements d'impôts sur les 9 premiers mois, le ministre qui se félicitait de n'avoir pas perdu de temps devra répondre à l'urgence de la Cour des comptes.
Et pour finir, un accord syndical éclair et une plainte de son concurrent General Motors pour corruption. Le groupe Fiat Chrysler a encore des obstacles devant lui avant de fusionner avec PSA.
Oui, c'est vrai que la rapidité est étonnante. Une semaine pour conclure avec le puissant syndicat United Auto Workers, UAW, alors qu'il avait fallu à General Motors passer par 40 jours de grève et 3 milliards de dollars de pertes. General Motors qui assigne donc Fiat Chrysler en justice pour corruption de syndicalistes, mais surtout pour avoir tenté, en les utilisant ces syndicalistes, d'affaiblir General Motors en exigeant des conditions plus favorables que chez Fiat Chrysler, ce qui avait fait grimper ses coûts de production. Fiat Chrysler réplique en dénonçant une volonté de perturber la fusion avec PSA, mais risquerait quand même d'avoir à payer entre 6 à 15 milliards de dollars d'indemnités.
Merci beaucoup Xavier Martinet, et j'indique pour les auditeurs que votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast.
White flag burned down. Now you're standing on your own. While the road is the more you carry on. Eyes wide open till you get there. With your heart of stone. No matter how familiar the faces, you take it all alone. Hold up, to find the shadows coming over, and it won't stop before you embrace it all and break down to me. Will you shut it all down? I hope not. When it all comes down, you're staring at me. If I'm waving a white flag, you're on me. When it all comes down, you blame it all on me. Still I'm waving.
On se quitte avec le quatuor francilien Form et son dernier titre White Flag. Merci beaucoup Nicole Magie-Germain et Stéphane Sirot de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre livre Stéphane Sirot, La grève en France, une histoire sociale 19e-20e siècle, paru chez Odile Jacob. Demain, on verra comment les économistes ont pensé la grève. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr ou bien en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
'Cause I'm waving the white flag. You were pointing at me,
staring at me, but I swear you got the wrong guy. I'm waving the white flag.